Eh bien, bien le bonjour à tous d'abord. On m'entend bien? Ça va? Oui? D'accord. Bien le bonjour. Alors d'abord, je dois vous dire que je suis vraiment content d'être avec vous. Je sais que ça sonne un peu phrase de politesse, parce que quand on visite une église, on est toujours bien content d'être avec les gens qui y sont. Mais c'est sincère. Je suis très ému. Très ému d'être ici. C'est l'église dans laquelle j'ai été baptisé. Je ne vais pas me représenter, parce que finalement... Samuel l'a fait pas mal. Et voilà, simplement, effectivement, j'ai été membre de cette église pendant quelques années. Et aujourd'hui, donc, je suis séminariste à Barcelone. Barcelone, parce que, très simplement, parce que j'ai épousé une Espagnole. Donc, je suis parti par là-bas. Et aujourd'hui, je suis en train de me préparer pour pouvoir servir le Seigneur à temps plein dans une église plus tard. Voilà, pour faire court, c'est un peu ça. J'en dirai sans doute un peu plus cet après-midi si vous venez à l'Assemblée Générale. Et donc, ce matin, je vais partager la parole avec vous. Et je vais commencer cette prédication par une histoire. Ce qui me stresse un petit peu, parce que je vais parler de mon beau-père, et il se trouve que mon beau-père est là ce matin. Il est venu. Non, mais bon, trois fois rien. C'est juste que quand j'avais une quinzaine d'années, mon beau-père, qui a toujours eu des idées bizarres, et ça n'a pas changé depuis, un beau jour me dit, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais un beau jour, il me dit, tu ressembles à Christophe Lambert. Oui, hein, ça, c'est, bon... C'est une idée en tout cas. Et il me dit, peut-être tu pourrais faire un book, parce que si ça se trouve, tu as même tes chances comme mannequin. Je pense que depuis, comme il a changé de lunettes, probablement il a changé d'avis aussi. Mais voilà, je me suis un peu renseigné. Pour être mannequin, en gros, il faut être beau, donc ça, c'est pas un problème. Il faut être musclé. Alors comme ça, ça se voit pas trop, mais torse nu, je suis assez impressionnant, quoi. Et il faut être grand. Il faut être grand. Comment A? Et bon, là, j'ai eu beau boire des litres et des litres de soupe, il n'y a rien eu à faire, je suis resté petit, et donc ma carrière de mannequin a été grandement frustrée. Les années ont passé, les épreuves de la vie se sont accumulées. En l'an 2000, j'ai eu ma première rencontre avec Jésus, et 4 ans plus tard, j'arrivais donc à l'église baptiste, avec en tête cet affreux problème existentiel que vous n'aurez pas de mal à comprendre. Je suis beau, je suis musclé, je suis intelligent, je suis humble, bien sûr, mais je suis petit, je suis trop petit. Quel métier est-ce que je peux faire avec un tel CV? Et heureusement, Samuel Pereira est arrivé comme pasteur, et là je me suis dit, bingo, je vais faire pasteur. Alors d'un autre côté, je me doutais bien qu'il devait y avoir d'autres qualités requises, d'accord, pour être pasteur, et c'est justement un peu le thème de la prédication de ce matin. Alors si vous envisagez une charge d'ancien ou de pasteur dans l'église, évidemment je vous invite à être attentif ce matin, on va parler de ça. Et dans le cas contraire, je vous invite aussi à être attentif, vous endormez pas, parce que vous vous rendrez compte que ce message vous concerne peut-être encore davantage. Alors on va ouvrir nos Bibles au chapitre 3 de la première lettre de Paul à Timothée. Donc, première lettre de Paul à Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 7. Alors, Paul nous dit dans cette lettre, « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. » Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et je trouve que la première chose qui frappe dans ce texte, c'est l'enthousiasme de Paul. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'est-ce qu'il désire ? Il désire un travail mal payé ? Il désire une galère ? Paul dit qu'il désire une œuvre excellente. Une œuvre excellente. Et ça m'interpelle beaucoup et ça suscite en moi un questionnement. Je vais vous parler un petit peu de l'Espagne. Alors peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup parce qu'ici on est en France, mais bon, dans la mesure où en Christ il n'y a plus ni juif ni grec, je suppose qu'il n'y a plus non plus ni français ni espagnol. Donc on est finalement tous concernés, je crois, par ça. Et en plus, j'imagine que le panorama en France n'est pas bien différent finalement. La province de Barcelone, dans laquelle j'étudie, est peuplée par environ 5 500 000 habitants. Il y a à peu près 400 églises évangéliques et à elles toutes, elles réunissent environ 16 000 chrétiens. 16 000 chrétiens. Je voudrais que vous tentiez une estimation de savoir sur ces 16 000 chrétiens, combien il y en a, à votre avis, qui ont entamé des études, comme je le fais, dans le séminaire où je suis. C'est le seul séminaire de la région. J'aimerais que vous tentiez votre chance de me dire combien vous pensez qu'il y a d'élèves dans ma classe, en clair, c'est un peu ça la question. Qui se lance ? 30 ? 30 ? 15 ? Quelqu'un d'autre ?
150 ?
150. Alors, je vais vous montrer une photo de l'ensemble de ma promotion. Donc on est tous là. On est tous là. Je vous présente donc Yolanda, à gauche, de Madrid, Tiffany, des États-Unis, moi, au milieu, Efraïn, qui est le seul, en fait, originaire de la province de Barcelone, et donc qu'on peut considérer faisant partie de ces 16 000 chrétiens, Christopher, des États-Unis, et Martha, des États-Unis également. Donc 6 étudiants sur 16 000 chrétiens dans la province. Et seulement, finalement, un d'entre eux, donc Ephraim, qui réellement fait partie de ces 16 000, puisque les autres viennent du dehors. Et le panorama est finalement encore plus déprimant que ça, puisque Tiffany, déjà, n'est plus parmi nous. Elle est partie, elle n'est pas morte. Martha, qui n'avait prévu de venir que pour une année, probablement donc ne sera pas là non plus l'année prochaine. Bon, la conclusion, c'est qu'effectivement, la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Et il ajoute... Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je crois que c'est une bonne exhortation ce matin, mais je pense qu'on peut la compléter par une autre. Je pense qu'on peut aussi prier pour savoir si éventuellement l'ouvrier que Dieu veut envoyer dans sa moisson, par hasard, ça ne serait pas nous. Ça ne serait pas nous. Et c'est à ça que je veux vous inviter ce matin. Je veux vous inviter à vous poser sérieusement la question de l'appel au ministère pastoral ou missionnaire, à l'engagement plein et entier au service de l'Église. Et l'une des manières de se poser cette question et de tenter d'y répondre, c'est de se plonger donc dans le passage biblique qu'on a lu et qu'on va décortiquer maintenant. Donc je vais le remettre. Voilà. Alors, j'en suis où ? Là. Donc, le terme évêque, évoqué donc au verset 1, se réfère donc aux anciens de l'Église et aux pasteurs. Donc, par commodité, je vais utiliser le terme générique de pasteur durant la prédication. Et la première caractéristique nécessaire citée par Paul est que celui qui aspire à la charge de pasteur doit être irréprochable. Et rien que ça, franchement, déjà, ça fait peur, non ? Mais évidemment, Paul ne dit pas qu'il doit être parfait. Il dit qu'il doit être irréprochable. Et je crois que c'est assez logique, puisque le pasteur, effectivement, se trouve placé dans une position d'évidence dans l'Église. Quand un chrétien tombe dans le péché, les conséquences sont pénibles pour lui, sont pénibles pour son entourage, et sont pénibles aussi pour l'Église à laquelle il appartient. Mais si ce chrétien se trouve être le pasteur, je crois que c'est pire encore, parce que Si un bon politicien peut tromper sa femme et malgré tout bien s'occuper des affaires de son pays, je crois qu'un bon pasteur ne peut pas tromper sa femme et bien s'occuper des affaires de son pays, de son église. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'a aucune crédibilité pour prêcher le dimanche avec ça. Timothée, à qui cette lettre est adressée, nous est présentée au chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres, et Luc nous dit de lui que « les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage ». Et juste derrière, on voit la conséquence du bon témoignage de Timothée, et cette conséquence, c'est que Paul voulut l'emmener avec lui. Paul a pris Timothée comme collaborateur parce que son témoignage dans l'Église était crédible. Ensuite, on voit qu'il doit être mari d'une seule femme. Alors, il y a certains commentateurs qui pensent que ce texte parle de la polygamie. C'est-à-dire que Paul est en train de dire ici, apparemment, que les chrétiens ne peuvent pas être polygames. Apparemment, il semble que la polygamie, ce n'était pas une caractéristique des habitants d'Éphèse, dans la ville dans laquelle se trouvait Timothée à ce moment-là. Donc, une autre interprétation, peut-être, il y en a une qui me plaît bien, ce serait de dire que ça pourrait se formuler par une question. Et la question est, c'est vraiment tous les hommes mariés sont mariés d'une seule femme? C'est une question. Et je crois que la réponse est assez claire. Non, il y a beaucoup de maris qui ne sont pas maris d'une seule femme et qui trompent leur femme. Donc, ça m'invite à suggérer que ce dont Paul parle ici, c'est simplement de la fidélité dans le mariage. C'est pas tout. Le pasteur doit également être sobre, nous dit le texte. Dans l'idée du mot grec traduit ici, sobre, ça veut dire sans vin. Sans vin rouge, sans vin blanc, il ne faut pas être saoul, quoi. Alors, voilà, c'est pas la peine de préciser que le pasteur, je pense, n'est pas censé venir complètement sous au culte pour prêcher le dimanche. Alors, je crois que l'idée est là encore un peu plus ample que ça. C'est l'idée, je crois, d'avoir simplement les idées claires pour pouvoir peut-être transmettre le message de façon claire, pour pouvoir conseiller les gens de façon claire, être alerte. Être sans vin amène peut-être également à la caractéristique suivante, c'est-à-dire qu'il doit être modéré et réglé dans sa conduite, et dans ces deux termes, il y a l'idée d'une vie qui soit disciplinée, qui soit ordonnée. Ensuite, vient un terme dont j'ai trouvé l'étude particulièrement intéressante, c'est le terme hospitalier. Le pasteur, l'aspirant pasteur, doit être hospitalier. Le terme grec traduit ici, et je ne vous balance pas du grec pour faire mon érudit, parce que je ne connais rien en grec, je n'ai pas commencé, mais... Les commentaires nous donnent parfois des indications qui sont bien intéressantes à partager, je crois. Le terme grec, c'est philoxénos. Et ça veut dire aimer les étrangers. Aimer les étrangers. Donc l'hospitalité dont Paul parle ici, c'est pas tellement l'hospitalité qui consiste à inviter un copain le soir à manger ou à accueillir un bon chrétien de passage à manger un dimanche midi. C'est davantage... c'est une blague, je suis déjà invité, vous n'inquiétez pas. C'est davantage d'accueillir vraiment celui qui nous est étranger, c'est-à-dire celui qui est différent, celui avec qui on n'a pas nécessairement d'affinité. Et en préparant cette prédication, je suis resté un peu perplexe devant le commentaire d'un théologien qui disait la chose suivante. Il disait, à l'époque du Nouveau Testament, l'hospitalité était essentielle dans un monde où régnait la persécution, la pauvreté, les orphelins et les veuves. À l'époque du Nouveau Testament. Comme si aujourd'hui, c'était plus nécessaire l'hospitalité dans ce sens-là. Si aujourd'hui l'hospitalité dans ce sens-là n'est plus nécessaire, alors la CIMAD n'est pas nécessaire, portes ouvertes n'est pas nécessaire. Et je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que le monde d'aujourd'hui a au contraire plus que jamais besoin de l'hospitalité dont nous parle ce texte. Alors jusqu'ici, on a vu que les qualités requises pour aspirer à la charge de pasteur sont des qualités morales. Et il y en a une seule qui se distingue, c'est la suivante, c'est celle qui dit que l'aspirant pasteur doit être propre à l'enseignement, c'est-à-dire il doit savoir enseigner, il doit avoir les capacités et les connaissances nécessaires pour pouvoir le faire, pour pouvoir enseigner. Ensuite, bon, il y a un passage qui, à mon avis, se passe de commentaires, ça parle de soi-même, il ne doit pas être adonné au vin, il ne doit pas être violent, il doit être indulgent, pacifique, désintéressé. Et il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Et on retrouve ici, je crois, le thème de la crédibilité du pasteur. Ce que dit Paul ici, c'est quasiment un lieu commun, à mon avis. c'est que de la même façon qu'un pasteur ne peut pas prêcher la fidélité le dimanche et tromper sa femme le lundi, comme on l'a vu tout à l'heure, il ne peut pas non plus avoir une vie privée désordonnée s'il veut voir, s'il espère voir régner un certain ordre au sein de l'Église. John Stott, qui parle beaucoup mieux que moi, disait « Un homme ne peut pas seulement prêcher, il doit aussi vivre. Et sa vie, avec toutes ses petites particularités, donne l'un ou l'autre de ces deux résultats, ou elle mutile sa prédication, ou elle lui donne chair et sang. » Alors ensuite, on voit qu'il ne faut pas que ce soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Paul ne parle pas ici d'un jugement émis par le diable, mais du jugement subi par le diable. Et la raison qui a valu la condamnation de Satan, on la trouve dans Isaïe, mais aussi dans le livre d'Ézéchiel. En Ézéchiel, chapitre 28, verset 17, d'ailleurs si quelqu'un veut le lire, ça serait parfait. Ézéchiel 28, 17 et 18 pour les versets.
Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent.
Merci beaucoup. Je vais attirer votre attention sur une chose. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Ce tu, depuis le regard de Dieu, ton cœur, ta beauté, se lit comme un je depuis la perspective de Satan. Mon cœur, ma beauté, ma sagesse. Et je crois que c'est là le péché qui a entraîné sa condamnation, cet énorme je qui a pris toute la place, qui a pris la place de Dieu. Et je crois qu'être devant l'Assemblée et prêcher entraîne toujours le risque du péché d'orgueil. Je suppose qu'en chacun de nous existe, et en tout cas ça existe en moi, cette douce satisfaction quand à la fin d'un culte, quand on a prêché, quelqu'un vient nous voir, ou plusieurs personnes, encore mieux, pour nous dire « Waouh, c'était super ce que tu as dit, vraiment c'était bien ». C'est toujours très agréable, mais en même temps c'est toujours un piège parce que effectivement on peut repartir en se disant « Waouh, c'est très bien ce que j'ai fait, c'est très bien ce que j'ai dit ». Et ça c'est la meilleure manière de s'attribuer la gloire qui revient à Dieu en fait, parce que, bon, je ne veux pas être démago, mais si je suis ici vraiment ce matin, en ce qui me concerne, c'est par la grâce de Dieu. Paul nous avertit. Un jeune converti tout juste sorti de l'obscurité, tout juste extirpé du monde et de l'emprise du prince de ce monde, tombera simplement, sans doute plus facilement, dans ce bon vieux péché d'orgueil qu'un vieux routard de la foi qui aura déjà été éprouvé maintes et maintes fois par cette tentation, non ? Et enfin, le texte nous dit « Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. » L'attitude du pasteur, comme on l'a vu, non seulement doit être irréprochable devant l'Église, mais elle doit aussi être irréprochable devant les gens qui sont en dehors de l'Église. Et bon, comme je suis un garçon simple, je suis allé faire un tour dans le dictionnaire. Opprobre, ça veut dire réprobation publique qui s'attache à des actions jugées condamnables. C'est-à-dire que le bon témoignage sert à ne pas attirer sur soi la réprobation publique. Et on peut se demander pourquoi, je pense, non ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Est-ce que ce sera, par exemple, pour ne pas donner une mauvaise image de l'Église ? Et là, je crois qu'on a une réponse à cette question, et qu'elle va plus loin que ça. On a cette réponse dans le chapitre 2 de la lettre Paul à Tite, dans laquelle Paul donne des indications sur le comportement qu'il attend des membres de l'Église, et surtout, il donne des raisons pour lesquelles il demande un comportement exemplaire. Et ces raisons sont les suivantes. Chapitre 2, verset 5, on voit que les chrétiens doivent avoir un comportement exemplaire devant les gens extérieurs à l'Église pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Verset 8, pour que l'adversaire soit confus et qu'il n'ait aucun mal à dire de nous. Verset 10, pour que la doctrine de Dieu, notre Sauveur, soit honorée en tout. La première lettre de Pierre en rajoute une couche au chapitre 2, verset 12. On peut lire « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. Donc en clair, l'enjeu ici, ce n'est pas la réputation de l'Église. Et en fait, pour être sincère, c'est une opinion personnelle, je crois que la réputation de l'Église n'a absolument aucune espèce d'importance. Je crois que l'Église n'est pas là pour plaire au monde, elle n'est pas là pour plaire aux gens de l'extérieur, elle est là pour rendre le témoignage de la vérité à courant, à contre-courant, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la réputation de l'Église, c'est la réputation de Dieu. C'est la réputation de Dieu. Le péché dans l'Église, c'est une plaie plus profonde, plus grave, plus sérieuse que n'importe où ailleurs. Parce que ce péché-là pousse les gens du dehors, à blasphémer contre Dieu. Et ce qui est grave, c'est que ce sont nous, les chrétiens, qui sommes responsables de ces blasphèmes-là par notre attitude. La deuxième partie du verset me semble plus obscure. En quoi un mauvais témoignage des gens du dehors pourrait-il faire tomber un pasteur dans les pièges du diable ? Et quels sont-ils, ces pièges du diable ? Franchement, j'ai lu plusieurs commentaires, il n'y a rien qui m'a convaincu, et je suis pour dire qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas. J'ai rien trouvé qui me permette de préciser quelle est la nature de ces pièges, et je me méfie pas mal de la créativité personnelle au moment d'interpréter la Bible. Par contre, ce qui est clair dans le texte, c'est que si le pasteur ne reçoit pas un bon témoignage de ceux du dehors, il court le risque de tomber dans les pièges du diable. Je crois que c'est une motivation plus que suffisante pour soigner son attitude devant les gens extérieurs à l'Église. On arrive à la fin de cette prédication et j'aimerais vous poser une question. À la vue de toutes ces caractéristiques, est-ce que vous pensez que les pasteurs sont des chrétiens aux qualités exceptionnelles ? Est-ce que ça vous semble très exceptionnel tout ça, c'est-à-dire finalement être fidèle à sa femme, avoir un bon témoignage des gens du dehors, avoir un bon témoignage également des gens de l'Église ? Est-ce que ce sont des choses incroyables qui sont demandées comme qualité à ceux qui souhaitent devenir pasteurs ? Ou est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt des choses qui sont demandées à chacun d'entre nous ici, non ? Je crois que c'est... Je ne sais pas, il me semble en tout cas que tous les chrétiens devraient remplir ces conditions. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et même cette unique caractéristique qui semble être un peu plus de l'ordre de la capacité, c'est-à-dire l'enseignement, moi je crois qu'elle nous concerne tous, parce que Jésus nous envoie vers toutes les nations pour en faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et il ajoute « enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Donc on est tous appelés à enseigner d'une façon ou d'une autre. Alors si comme chrétiens, on est tous appelés à remplir les conditions nécessaires au ministère pastoral, moi je crois que rien ne devrait nous empêcher de l'envisager sérieusement à un moment ou à un autre et de remettre cette question honnêtement dans la prière. Peut-être que ça vous surprendrait que Dieu vous appelle, et je crois que ce serait normal. Moïse a été surpris, Gédéon a été surpris, dans une moindre mesure j'ai été surpris, je ne veux pas me comparer, mais c'est comme ça. Et je crois et effectivement que c'est certain que tout le monde n'est pas appelé à devenir pasteur, mais je crois aussi que c'est certain que tous les pasteurs ont répondu à l'appel de Dieu, et que pour répondre à cet appel, il faut commencer par l'entendre, et que pour l'entendre, il faut ouvrir son cœur, je pense, il faut ouvrir son cœur à cette possibilité. Si ça se trouve, l'ouvrier que Dieu veut envoyer dans sa moisson, c'est vous, c'est toi. Voilà, je vous remercie.